à deux.
Bonjour à tous. Voilà, je ne vous vois pas très bien, c'est un petit peu ébloui. Ouais. C'est très gentil de nous accueillir dans le cadre de ce congrès pour les femmes. C'est une première, surtout pour mon mari. Merci de l'avoir invité avec moi. Voilà. Nous sommes dans le ministère depuis... Bon, mais moi, ça fait 45 ans, parce que j'ai été à partir du mariage, puisque j'ai épousé mon pasteur. Mais lui, ça fait à peu près 47 ans qu'il sert le Seigneur dans le service. Nous avons eu 4 enfants et nous avons 8 petits-enfants maintenant. Voilà. Voilà pour les présentations. On va pas faire trop de présentations parce que on est limité en temps et on veut aller dans le vif du sujet. Alors cet homme que je ne comprends pas, s'il y avait des hommes ici devant moi, ils diraient « Ah, ces femmes que je ne comprends pas !» Parce qu'ils en ont autant pour nous. C'est-à-dire qu'on ne se comprend pas. Alors moi, je vais vous faire un petit PowerPoint que je vais vous présenter pour montrer la différence entre les hommes et les femmes, pour commencer. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on était différents et on ne se comprend pas, déjà parce qu'on vient parfois de milieux différents, de familles différentes, parfois de cultures différentes. On a une éducation différente. Et ce qui fait que quand on se retrouve, quand on se marie, on rencontre beaucoup de problèmes parce qu'on ne vit pas de la même manière, on ne pense pas la même manière. Et comme nous, on est fait dans notre intérieur, on veut que les autres pensent comme nous, que les autres fassent comme nous, et que tout le monde soit un petit peu des clones quelque part, pour bien s'entendre. Mais vous allez voir qu'on peut très très bien s'entendre et se comprendre, même si on est très différent. Avec mon mari, on est très différent. C'est l'eau et le feu. Moi, j'ai été une éducation très stricte, très carrée, ordonnée, rangée, organisée. Et chez mon mari, c'était « va comme je te pousse ». Ça, c'est pour les présentations. C'est pas facile, mais quand on arrive à comprendre comment l'autre fonctionne, c'est ce qu'il faut s'évertuer à faire avec la grâce de Dieu, se comprendre. Alors déjà, on voit les petits garçons, quand ils sont petits, ils évoluent, ils aiment être des héros, ils s'identifient au chevalier qui va délivrer sa princesse avec son épée, et on les voit comme Goldorak ou Superman. C'est vraiment des gaillards qui veulent montrer leur force, leurs muscles, leur virilité. On le voit déjà tout petit. Et puis les petites filles, d'un autre côté, eh bien elles sont plutôt des petites princesses. On veut déjà aller dans la trousse de maquillage de maman, se mettre un petit peu de rouge aux lèvres, se faire les boucles, bien s'arranger, mettre sa belle robe. Elle aime qu'on dise qu'elle est belle, elle aime qu'on la félicite et qu'on l'encourage pour sa beauté. Et on sait aussi que les femmes, avec leur beauté, elles ont quand même un pouvoir de séduction. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté physique, homme et femme. Maintenant, je voudrais passer au côté un peu intérieur. Cet homme qu'on ne comprend pas pourquoi. Alors, je vais demander au PowerPoint pour mettre le premier point. L'homme, il est dans la compétence. Alors lui, je vous disais, c'est la force, le héros, c'est les records. Quand on se rassemble quelque part, il en fait une grande route, ben, il rencontre ses amis, tout de suite, combien de temps que t'as mis ? Moi, j'ai fait tant à l'heure, j'ai mis tant de temps pour aller à tel endroit. S'il est dans le record, dans la performance, pour le boulot, c'est pareil. J'ai réussi telle et telle chose, j'ai fait ceci, c'est super, c'est des héros. Avec les pasteurs, même entre eux, parfois, je vais faire une petite parenthèse. Mais ils se rencontrent entre eux, ils se disent, vous le direz pas, hein, je vous le dis. Combien tu as fait de baptêmes cette année ? Ah, moi j'ai fait tant de baptêmes. Mais les hommes sont comme ça. Il faut le comprendre. La femme, elle est dans la qualité de la relation. Alors la femme, elle est plutôt dans le dialogue. En quelques instants qu'elle rencontre quelqu'un, elle sait déjà combien elle a d'enfants, qu'est-ce qu'ils font, comment ça va, la santé de la mamie, du papy, toute la famille y a passé, toutes les conversations y ont passé, peut-être même en 10 minutes, on sait déjà tout, on veut tout savoir, parce que nous, on aime la relation, on aime connaître le cœur de qui on parle. Voilà, on porte un intérêt sur autrui. Ensuite, le deuxième point, l'homme est séquentiel. Alors, il ne sait faire qu'une chose à la fois. Petit exemple, vous avez peut-être une maison à étage, chez nous on avait un étage à la maison. Si vous mettez l'aspirateur au pied ou des petites choses, moi je mets des fois la manette à linge là ou quoi, c'est pour que le premier qui passe puisse monter la manette et monter, mais votre mari va monter en haut, il va enjamber l'aspirateur, mais il ne mettra pas là-haut pour vous soulager, parce que vous ne lui avez pas demandé. Il faut oser demander. Ils sont prêts à le faire, mais il faut le demander. Mais je dis ça, mais mon mari, la dernière fois, il est de progrès en progrès. Vous verrez ensuite, avec les secrets de la communication, on peut arriver quand même à un certain niveau de communication. Et je voudrais dire que l'autre jour, j'ai mis ma bannette à linge au pied de l'escalier, et je suis arrivée, j'ai fait « Oh, elle a disparu !» Ma bannette était montée. Voilà. La femme, au contraire, elle est multitâche. Alors la femme, elle sait faire la cuisine, en surveillant les devoirs des enfants, parfois elle répond même au téléphone, et si son mari lui crie quelque chose entre deux portes, eh bien, elle a entendu, et c'est pas passé dans les oubliettes, et elle va le faire. La femme, elle est comme ça. Elle peut mener plusieurs fronts à la fois. Alors, dans cette partie-là, j'aimerais faire une petite précision, c'est que l'homme, il est fait souvent, comme il est séquentiel, il voit les grosses lignes. Vous savez, quand on a décidé de refaire la maison ou l'appartement, ce qui se passe souvent, c'est que l'homme, lui, il voit déjà, il y a le carrelage à faire, le truc, le mur à tomber, et nous, on arrive là, on dit « Oh, eh ben gars, je vois déjà mon petit cadre là, avec ma petite table et mon petit pot de fleurs dessus. » Et lui, il dit oh, « Écoute, arrête, hein, parce que nous, on n'est pas là, déjà, on casse tout, et il faut tout refaire. Alors, ton petit pot de fleurs, il attendra un petit peu, mais nous, on voit déjà la décoration. » Alors ça, parfois, ça énerve un peu les messieurs, parce qu'on est fait différemment. Parce qu'eux voient les grosses lignes, et nous, on voit les détails pour bien des choses. Je ne vais pas être trop longue là-dessus. Ensuite, l'homme traite ses problèmes tout seul. Ça, c'est grave. Parce qu'il nous fait signe qu'en fait, il n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin de nous. Il n'aime pas parler. Et il veut traiter ses problèmes tout seul. Il se confie rarement. Il est indépendant. Et il a pas besoin de personne. Et il est son rôle, parce que d'après son rôle, il est pour l'extérieur. Il vit moins sur l'intérieur. Nous, les femmes, on va regarder, elles veulent parler de leurs problèmes. On a parlé un petit peu entre nous, les femmes de pasteur, hier soir, que nous, on a besoin de parler. Et c'est vrai, nous, quand on a un problème, quand on a un souci, quand on n'est pas très bien, on aime en parler. Alors c'est vrai qu'on a peut-être on manque peut-être un petit peu de délicatesse parfois, parce que quand notre mari rentre fatigué du boulot, tout de suite on lui tombe dessus. Faut pas faire ça. Hein. Et puis on lui parle, ah oui chérie, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et le petit moulin se met en route, et ça saoule les hommes. Ils aiment pas ça, parce que eux traitent leurs problèmes tout seuls. Alors c'est pour ça que vous ne le comprenez pas. Parce que lui gère tout seul, donc il pense dans sa tête qu'on peut gérer toute seule. Mais nous, on a besoin de le dire. Ensuite, le mari, l'autre point, c'est qu'il a besoin de confiance et d'appréciation. Ça, c'est un point important, parce que l'homme aime avoir de la reconnaissance. Il aime, sous son apparence virile et fort, il y a un petit quelque chose en lui qui est un petit peu délicat, parce qu'il aime la tendresse aussi. Et donc, ce qui montre à l'extérieur n'est pas toujours le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qu'il aime percevoir de nous, cet homme, et qu'on ne comprend pas toujours, c'est qu'il aime qu'on lui dise qu'il est le meilleur. Il aime entendre dire « j'ai besoin de toi ». Sans toi, je ne peux pas faire grand-chose. Je crois en toi. Oh, chérie, tu es à la hauteur, là. Ça, il aime. Parce qu'il a besoin d'être en confiance. Je vais vous faire une petite confidence sur mon mari, si vous permettez. Tu fermes tes oreilles. Mon mari était quelqu'un d'introverti, timide, quand on s'est marié. Il ne parlait pas du tout. D'abord, je disais toujours, il n'a pas de conversation. Et alors, il était tellement timide et il était jeune dans la prédication. Il a été jeune pasteur. Et il disait toujours, je suis nul, je suis nul. Il rentrait, il dit, oh non, là, je n'ai pas été à la hauteur. J'étais... Et puis, moi, j'essayais de l'encourager. Et puis, je ne savais plus comment m'y prendre avec lui. Puis moi, ça me chagrinait de voir qu'il se dévalorisait tout le temps, alors qu'à côté, il avait plein de qualités. Alors, je me suis mise devant le Seigneur. Puis, le Seigneur m'a soufflé un petit truc. Il m'a dit, il faut que tu l'encourages. Et un jour, je l'ai pris entre quatre yeux et je lui ai dit, je t'interdis à partir d'aujourd'hui de dire que tu es un nul. Alors, il m'a regardé, il était rouge. Et puis, j'ai dit oui, parce que moi, je vais te dire une chose. Je ne me serai jamais mariée avec un nul. Voilà. Donc, il n'est pas nul. Voilà. Ensuite, donc, il a besoin de confiance. La femme, elle a besoin d'attention et de compréhension. Nous, on a beaucoup plus de sensibilité et on a besoin qu'on fasse attention à nous. Comme je vous disais, la petite fille qui se met en beauté parce qu'elle veut qu'on la regarde, qu'on l'admire. Nous, les femmes, on aime beaucoup qu'on nous regarde et qu'on ait attiré l'attention. Et on veut qu'on ait de l'attention, nous encourager. On veut être comprise. On veut que quand on lui parle, eh bien, il comprenne, qu'il essaie de nous entendre. C'est un point que je développerai peut-être tout à l'heure dans la communication. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine-là. Et on aime être encouragé, consolé, rassuré, et on aime être serré dans les bras. Ça, c'est très important, on en parlera plus tard. Ensuite, il est peu prévenant. On va passer à l'autre point. Peu prévenant. Je voulais préciser aussi, entre deux, je voulais le dire au début, c'est des constats en général. Mais je voudrais dire qu'il y a toujours un petit côté féminin chez les hommes et un petit côté masculin parfois chez les femmes. Ce que je dis là, ce n'est pas une généralité. Ce n'est pas un absolu, pardon. C'est en général. Hein ? Alors, vous attendez pas, à moins que votre mari soit très délicat, mais qu'il vous fasse de grandes surprises. Parce que comme il est séquentiel... Il peut faire qu'une chose à la fois, donc il ne peut pas être au boulot et puis être attentif à vos désirs. Et il manque souvent d'idées, c'est pour ça que souvent les couples tombent dans la routine. Ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, mais ça en fait partie. Et il est rarement à aller au-devant de nos besoins. Nous, on voit facilement ce qui se passe, mais l'homme, il va rarement au-devant des besoins, comme l'aspirateur tout à l'heure. Mais si on le demande, on est servi, surtout si on le demande gentiment. Voilà, donc la femme, elle veut que ça vienne de lui. On ne le comprend pas, mais nous, on veut que ça vienne de lui. Pourquoi ? Parce qu'une femme, elle répète toute la journée la même chose, ce soit avec les maris ou les enfants. Là, on parle de l'homme. Mais on répète, et on voudrait que ça vienne de lui parce qu'on a l'air d'être des quémandeuses. On a l'air de toujours demander, et on se fait passer souvent, nous les femmes, pour des casse-pieds. On casse les pieds aux hommes. Pourquoi ? Parce qu'on demande, on demande, on demande, et à la fin, on voudrait que ça vienne de lui. Mais l'homme n'est pas fait ainsi. Alors vous attendez pas du jour au lendemain qu'il soit prévenant, si c'est pas, je dis bien, dans son tempérament. Je vais passer au point suivant. Il est plutôt un dauphin. Vous savez ce que c'est qu'un dauphin ? Est-ce que vous avez vu dans un parc d'attractions, les dauphins quand ils font leur numéro? C'est joli d'ailleurs, hein? Que fait le dompteur après? Le dompteur, il lui donne du poisson. Une petite caresse et du poisson. Il aime qu'on le félicite. L'homme aime les compliments. Et il veut qu'on le récompense, qu'on reconnaisse. On a dit plus haut qu'il veut une reconnaissance. La femme, elle est plutôt jardin. Un jardin, on en prend soin. On l'arrose, on passe du temps pour se promener, pour sentir les bonnes fleurs. Elle aime, comme on disait plus haut, avec la relation. Elle aime ses moments de qualité. Le jardin représente aussi le romantisme et la tendresse. Et une femme, elle est plutôt jardin. Une femme aime s'entendre dire « je t'aime ». Si on ne dit pas régulièrement à une femme « je t'aime », bon là, il n'y a pas d'hommes, je ne parle pas des hommes, mais je leur recommande souvent ça. Dans les réunions de couple, il faut savoir dire « je t'aime » et vice-versa. Mesdames, il faut dire « je t'aime » à ton mari. Ils aiment qu'on le leur dise. Alors maintenant, on a parlé physique, l'intérieur. On va parler le point suivant, c'est plutôt sexuel. L'homme, excusez-moi l'expression, il est plutôt chalumeau. Vous savez tous ce que c'est qu'un chalumeau, hein ? On met le gaz, on met l'allumette, puis c'est parti. Faut en parler, parce que dans un couple, c'est très important. Et dans la relation, c'est très important. Il faut savoir qu'on est très, très différents. Parce que l'homme, il a juste qu'à regarder une belle femme, on a juste qu'à être bien présentable, et bien lui, il est tout de suite prêt. Rien qu'avec le regard. Ouais. C'est pour ça, mesdames, il faut toujours être attirante pour votre mari, hein. Là, on parle dans le cadre de mari, hein. Je ne parle pas de séductrice à côté, je parle dans le cadre du couple. Voilà. Donc, lui, il est toujours prêt. Il n'y a rien d'autre qui compte. La femme, elle est plutôt four. Vous faites toute la cuisine, hein. Bon, vous savez bien qu'un four, quand vous le mettez à fond pour mettre votre rôti de bœuf qui doit être saisi, il ne faut pas le mettre tout de suite. Vous mettez votre main, c'est pas encore chaud. Il y a le préchauffage. Si vous ne faites pas le préchauffage, votre four n'est pas assez chaud. Et justement, là encore, sexuellement, on n'est pas du tout au même niveau. Et c'est pour ça, souvent, eh bien, je dis que tout au long d'une journée, parce que la femme... on dit les préliminaires, on parle beaucoup, les sexologues, de préliminaires, mais dans la tête des femmes, les préliminaires, c'est presque tout au long d'une journée. Quand il y a eu des mots tendres, quand il y a eu une relation, quand il y a eu un petit différend avant d'aller au lit le soir, eh bien nous, on n'a pas la tête à ça, il faut régler le problème. Parce qu'on ne peut pas se libérer, on ne peut pas se livrer, et on est mal dans notre tête, il faut régler les choses. Et si on veut que même sexuellement, trouver un épanouissement, il faut là encore apprendre à comprendre notre homme et aussi que l'homme nous comprenne. Mais là, ce n'est pas le sujet, mais je voulais quand même vous donner ce détail-là pour montrer que là encore, il y a une différence entre l'homme et la femme. Alors, toutes ces différences-là, eh bien, c'est quoi? Pourquoi Dieu nous a créées si différentes? Eh bien, c'est pour une seule raison, c'est qu'on se complète à merveille. C'est qu'on ne fait... On ne fait pas sans l'autre. C'est qu'il y a aussi en nous des attentes de l'autre qui ne sont jamais, jamais comblées. Pourquoi ? Parce que notre homme est différent et il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on sache lui parler, le prendre de la manière que lui, il interprète les choses. Et ça, ce n'est pas facile. On en parlera plus tard. Et donc, ce que je disais, qu'on n'était pas nés, on n'était pas fait pour se faire la guerre. Hein? Le Seigneur nous recommande d'aimer nos ennemis. Je dis souvent aux femmes, votre mari n'est pas votre ennemi. Vous avez tout entre vos mains pour faire en sorte de créer la communication et de créer ce contact et de le comprendre, de comprendre cet homme qui est à côté de lui. Quand vous aurez compris son fonctionnement, avec son passé. Dans l'autre carrefour avant, on a parlé beaucoup du passé. Si j'ai le temps, je pourrais peut-être vous en parler aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir régler, peser et mettre en balance dans la vie de l'un et de l'autre. Ce que je voulais dire, je voulais comparer Dieu à la création. C'est vrai qu'il a fait l'homme et la femme très très différents. Et pour ça, je vais prendre un exemple pour vous imaginer un petit peu. Vous savez tous faire une mayonnaise. Hein, je vais peut-être vous faire sourire. Moi, je fais la cuisine, alors souvent, je prends des exemples de cuisine. Mais dans les ingrédients de la mayonnaise, si vous voulez, eh ben, votre homme, il a des ingrédients en lui, ce que Dieu a mis en lui. On va dire qu'il a le jaune d'œuf, par exemple, avec le poivre et le vinaigre. Et puis, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Et on va dire à côté qu'il a créé la femme tout à fait différente, très différente. Et disons qu'elle, eh bien, disons qu'elle va être l'huile avec le sel et cette moutarde dont on a besoin pour cette mayonnaise. Et tous les deux, ils moulinent de leur côté, mais même en moulinant leurs ingrédients, ils n'y arrivent pas, ça ne montrera jamais une mayonnaise, parce que les éléments ne sont pas ensemble. Et justement, je voulais vous expliquer dans ces différences, Dieu nous a placés dans nos différences pour faire de ces différences une qualité, une référence, et que vous soyez un couple parfait dans vos différences. C'est que la différence n'est pas faite pour nous nuire, mais elle est faite pour nous compléter, pour nous aider. Et on verra un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard, on en parlera aussi. Je voudrais passer le relais à mon mari parce que c'est lui qui va vous parler de cette mayonnaise en prenant pour ne faire qu'à. Voilà.
D'habitude, c'est moi, qui fais cet exposé. La différence entre l'homme et la femme, assez bien débrouillée, hein. Mais on voit le côté féminin là, qui est un petit peu, pas débordé, mais qui était très présent, comme moi, quand je le fais. Voilà, on est encore différents. Donc, je suis chargé de vous parler, et surtout du fait qu'on est très différents, et aussi essayer d'amener pour que la mayonnaise, elle prenne. Vous êtes d'accord? Et donc... Quand on a vu ce qui nous avait été demandé, on s'est soucié de répondre à ce qui nous a été demandé. Il a été demandé justement de parler de faire qu'un. Comment pouvoir faire qu'un? Vous me suivez? Alors donc, en tant que prédicateur, je vais prendre la Bible. Et puis, on va parler un petit peu de ce qui est extraordinaire justement de faire qu'un, puisque dans la Bible, il a dit « L'homme quittera son père et sa mère et ils deviendront... » qu'une seule chair, une traduction dira qu'une seule âme. Et quand on voit le livre des Actes des Apôtres, vraiment, ça a vraiment marché. L'Église s'est développée. Plus il y avait de difficultés et de persécutions, eh bien, la Bible, Actes nous dit souvent ensemble. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble, d'un même cœur, d'une seule âme. Ils étaient ensemble, dans le même esprit. Et vous savez, quand on est ensemble, la mayonnaise, elle prend. Amen. Et je voudrais vous dire que les difficultés du livre des Actes des Apôtres n'ont pas empêché vraiment le royaume de Dieu d'avancer vraiment jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vraiment unis. Et donc, on va s'arrêter un petit peu à cela. Je voudrais faire deux versets de lecture pour vraiment ponctuer ce moment et surtout votre esprit. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 14, il nous est dit « Mais par-dessus tout cela, » alors on s'aperçoit qu'il y a une importance, il y a un « mais » qui arrive. Beaucoup de choses ont été dites avant. Ces choses qui ont été dites avant, c'est très important pour un homme, pour une femme, parce qu'il consiste à mourir à soi-même et aussi à revêtir plein de choses. Et là, il nous est dit hein, « Par-dessus tout cela, revêtez-vous de la charité. » Et c'est ce qui m'intéresse, c'est la suite. Qui est le lien de quoi? Allez-y. De la perfection. Et je pense vraiment qu'on a besoin de se perfectionner en couple. Et si vous me dites comme une sœur, quand je débutais le ministère, j'étais tout jeuneau, comme disait Suzette, Je disais, est-ce que vraiment je vais pouvoir faire quelque chose pour le royaume de Dieu ? Une sœur me dit, même Dieu ne pourrait pas changer mon mari. Alors quand vous avez la foi comme cette femme, vous pouvez être sûr que le couple va aller de mieux en mieux. Donc moi je voudrais vous dire, il y a amour et amour, et l'amour filéo suffira jamais, mais il nous faut l'amour de Dieu. Et c'est vraiment ça. Et là, il nous dit, c'est un lien. Vous me suivez ? Vous savez ce que c'est qu'un lien ? Hein ? La corde à trois fils. Il y a un lien qui est fort. Il y a quelque chose de plus fort que la mort. Il y a quelque chose de plus fort que le caractère ou le péché, l'amour de Dieu. Et là, je voudrais vraiment insister, c'est la voie de la progression, de la perfection, c'est l'amour de Dieu qu'on peut recevoir. Et la deuxième chose, c'est le verset suivant. Hein, il nous est dit, « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former quoi ? Un seul corps, et ça me paraît formidable, puisse cette paix régner dans vos cœurs. » Ici, il nous est parlé d'un appel. Avant, c'était un lien. Là, c'est un appel et on doit tous répondre à l'appel. D'accord ? Vous avez donné votre cœur au Seigneur ? Et quand il y a une réelle rencontre avec Dieu, on reçoit la paix. Et cette paix qui surpasse toute intelligence, c'est elle qui va procurer tout ce qu'il faut par le Saint-Esprit pour être parfaitement liés l'un à l'autre. Amen. Croyez-vous qu'un pays en guerre prospère ? Croyez-vous qu'en se mordant l'un l'autre, ça va aller mieux ? Croyez-vous qu'en cherchant à avoir raison, on va avancer ? C'est seulement la paix de Dieu qui va permettre d'être sur un terrain. Et comme on a entendu ce matin, vraiment on peut rentrer dans son appel et entrer dans ce que Dieu nous demande et inverser les choses parce que le Seigneur est merveilleux. Amen. Alors personnellement, moi j'ai grandi dans une famille, quand je voyais mes sœurs aînées, c'est un long témoignage, mais mes sœurs aînées auraient pu être mes mères, mes mamans, parce qu'elles ont été enceintes en même temps que ma mère. Vous voyez un petit peu le topo. Alors, je voyais mes sœurs, elles étaient mariées, et je voyais dans l'église les couples. Et moi, en grandissant ado, j'avais vraiment reçu quelque chose de profond de la part de Dieu. J'étais très sensible, je ne sais pas si c'est par le Saint-Esprit ou ma nature, mais quand je voyais les couples, quand je voyais comment ça se passait, quand j'entendais, quand je sentais les choses, moi je dis, c'est ça le mariage. C'est ça le mariage. On va à un mariage, c'est tout beau. Et puis quatre matins après, alors je dis, Seigneur, moi je ne veux pas me marier. Vous voyez ? Et aujourd'hui, pourquoi les gens ne veulent plus se marier ? Pourquoi il y a le concubinage ? Pourquoi il y a des jeunes qui ne veulent surtout pas le mariage ? C'est la faute à qui ? C'est qu'il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de réussite selon le cœur de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, et vous là, les épouses, je vous en supplie, recevez de l'amour, entrez dans cette dimension de paix et vous allez développer une union. Vous me suivez ? Et ça, c'est très, très important. Et plus tard, donc, j'ai compris que le mariage, c'était faisable. Et j'ai compris qu'il fallait la grâce de Dieu. Et j'ai compris quelque chose. Vous allez me croire ou pas croire, mais moi je dis, Seigneur, si ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est sûr que ça ne pourra pas marcher. Mais si c'est toi qui l'as choisi, alors là, ça pourra certainement marcher. Mes frères et sœurs, quand on est liés, la Bible nous dit, Dieu nous a unis. Et moi, je crois qu'il faut mettre Dieu dans l'affaire. Et même si ça ne va pas trop bien, il faut mettre Dieu dans l'affaire. Alors donc, moi, je voulais me marier. Et puis, je cherchais. Et comme je débutais dans le ministère très timidement, ma sœur me disait, toi, tu n'as plus qu'à taper dans un buisson, il y en a 10 qui te sautent au cou. C'est pas que j'étais très beau, mais je pense que c'était le ministère, peut-être ma gentillesse ou je ne sais pas trop. Mais voilà. Et puis, je cherchais. Et puis, à chaque fois que mon cœur s'attachait... la jante féminine, une fille, tout ça, que je trouvais bien pour moi, pour mon ministère, etc. À chaque fois, Dieu me mettait un feu rouge. Vous voyez ? Et dans mon esprit, c'était non. Alors, j'étais très déçu. Parce que moi, personnellement, je trouvais ça très bien. Mais Dieu, de son côté, trouvait ça beaucoup moins bien. Et puis, je dis, Seigneur, mais jusque-là, quand, Seigneur ? Serais-je seul ? Et puis, il y avait cette jeune fille, là... Je la trouvais pain bêche. Je la trouvais bizarre. Et celle-là, Seigneur, il faudrait que tu la convertisses une deuxième fois. Parce que je commençais, moi, j'étais prédicateur. Puis elle n'avait pas les références que nous, on avait reçues de nos aînés. Elle n'avait pas les références. Alors voilà. Et puis moi, je dis, Seigneur, jusqu'à quand? Puis Saint-Esprit me dit, c'est elle. Voilà. Chez eux, elle vous l'a dit, papier millimétré. Mais là, je peux vous donner des détails. Hein. Mais en même temps, elle était prisonnière. Vous me suivez? Elle était prisonnière. Moi, c'est vrai, baba cool. Mon père avait vécu une vie de patachon et quand il s'est converti, lui, c'était l'amour, la liberté, c'était toujours très bien, le Seigneur est bon, ne vous inquiétez pas. Pour les études, Dieu pourvoira. Du n'importe quoi. On se lavait pas, c'était pas trop grave. Voilà, voilà. Par contre, on avait la crainte de Dieu. Par contre, on savait ce que c'était de passer une heure de prière. On savait ce que c'était d'aller dans les rues évangéliser. Mais, alors là, pour être un mari, ça, c'était autre chose. Alors donc, voilà, j'ai libéré de sa prison la fille Gomez. Mais la fille Gomez, elle a redressé tout ce qui n'avait pas été construit dans ma vie. Est-ce que vous me suivez? Elle a fait un travail formidable. Alors, pour faire court dans notre témoignage, puis là, on est dans notre témoignage, mais je voudrais arriver à la parole de Dieu, eh bien, c'est que ça n'a pas été facile. Tout le monde le croit, hein? Qui pense que ça a été facile parce que c'était le plan de Dieu? Qui pense que ça a été facile parce que c'était le plan de Dieu? Moi, je crois que c'est le plan de Dieu, votre mariage. Mais Dieu veut se glorifier. Et Dieu veut vous bénir. Alors, quand ça n'allait pas, comme tous les deux, on était déjà dans le ministère, on a appliqué ce que nous-mêmes, nous prêchions aux autres. Vous me suivez? Et on s'est retrouvés au pied du lit, pas côte à côte, hein, mais chacun d'un côté, chacun de son côté, mais on s'est retrouvés à genoux. Et là, on priait le Seigneur. Et ça, c'est pas arrivé qu'une fois. Hein. Vous me suivez? Plus tard, en vieillissant, ça s'arrangeait allongé. On pouvait prier allongé, on pouvait réclamer le secours allongé. Mais au début, c'était tellement hard, hein, Seigneur. Moi, je disais, comment ça va finir, hein, Seigneur? Puis je te sers, et puis là, le foyer est en train de quoi, machin. Le témoignage, Suzette peut le dire, on se relevait toujours plus amoureux qu'avant. Vous me suivez? Je crois qu'il y a une puissance. Il y a une puissance qui agit, qui fait au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Et nous, quand on n'a pas cet amour, et quand on n'est pas sur le terrain de la paix, on pense, on imagine des choses qui malheureusement ne viennent pas de Dieu. Mais quand on est animé de ce souci de chercher Dieu, de faire la volonté de Dieu, alors là, nous pouvons plier les genoux, et le Seigneur nous vient en aide, il coupe ce qu'il faut couper, et il met l'accent sur ce qu'il faut vraiment développer, et ça, c'est le royaume de Dieu pour nos vies. Amen. Donc l'homme a été créé par Dieu, je regarde l'heure parce que j'ai toujours une sale habitude d'être trop long. Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible nous dit, à son. Dieu nous a fait à son. Ben pourquoi vous êtes si misérables? Pourquoi notre couple est si minable? Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il s'est passé quelque chose. Le sixième jour, l'homme et la femme créés à l'image de Dieu, c'était très bon, on le sait tous. On sait que toute la création, c'est des merveilles et des merveilles. Et tous les êtres humains sont inexcusables. Parce que devant tout ce qui a été créé, la Bible nous dit, Dieu se révèle dans sa divinité, dans sa sagesse et dans sa puissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu se révèle par la création. C'est beau, c'est beau. Et c'est vrai, le tourisme marche très bien dans le monde entier. Oui ou non? Les gens investissent pour voir, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Eh bien, tout ça, un jour, ça va être roulé comme un vêtement souillé. Vous le savez, ça? Mais les hommes et les femmes convertis vont demeurer éternellement. L'homme, la femme, le mariage, c'est ce qu'il y a de plus beau que Dieu ait créé. Ton couple, là, je vais parler de vos maris, je peux me permettre. Quand on fait couple, je dis voilà, votre conjoint, je le dis souvent, mais là c'est votre mari. Puissiez-vous recevoir la révélation, c'est un don de Dieu. Puissiez-vous l'accepter comme il est. Il n'est pas terrible, mais acceptez-le comme il est. Vous ne le comprenez pas, c'est le thème d'aujourd'hui. Il ne vous comprend pas, c'est le thème d'aujourd'hui, mais je puis dire qu'à la création, Dieu a fait l'homme et la femme. Et quand Dieu a amené Ève à Adam, ça a dû faire boum boum dans le cœur d'Adam. Hein. Oui ou non? Et c'est extraordinaire. Hein. Et là, on voit quelque chose de significatif concernant les propos juste avant la chute, juste avant la séduction, juste avant ce péché, cette désobéissance. Dieu dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera et ils deviendront qu'un. C'est beau, hein? Juste avant la chute. Ça, c'est le cœur de Dieu. Qu'on soit un et solidement un. Alors la chute est arrivée, et ça c'est quelque chose de douloureux, alors que Dieu a créé les choses admirablement. Et la deuxième fois qu'on retrouve le texte, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera, et puis comme ça ils feront qu'un, c'est dans les évangiles. Et vous savez à quel moment Jésus a rappelé ces choses? En disant, il est dit, et au commencement c'était... que l'homme a fait, Dieu a fait l'homme comme ça pour qu'il soit qu'un, ne séparez pas ce que Dieu a joint. Donc c'est du temps de l'évangile. Et on sait que Jésus est le sauveur. Amen. Et je crois que le salut pour vous aujourd'hui par rapport au thème, moi je crois que le grand salut pour vous par rapport au thème, c'est que le Seigneur vous ouvre les yeux sur la valeur de votre mari. Ça fait partie du salut. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'est pas ton ennemi, ça a été dit. Mais avoir vraiment cette révélation quand Jésus est dans le couple, il y a quelque chose à vivre. Et dans cette péripétie, là où Jésus a dû justement réagir violemment, c'est que justement, les pharisiens voulaient absolument... là, embêter le Seigneur, ils sont là pour l'agresser, ils sont là vraiment pour le mettre mal à l'aise, en disant, mais est-il permis de répudier sa femme? Alors Jésus rétorque, non, au commencement c'était pas comme ça, s'il y a la lettre de divorce, c'est à cause de quoi, tiens, vous savez? À cause de la dureté de vos cœurs. S'il n'y avait pas de dureté, il n'y aurait pas eu besoin. Hein. Vous voyez le péché, tout boulot que ça fait. Hein. Et la dureté, elle est là, elle n'est pas que chez les hommes. Hein. La dureté des cœurs est là. Et Jésus va rétorquer, non, au commencement, c'est autre chose. Et Jésus va remettre les choses en place. Vous êtes tous d'accord? Mais alors, juste après, avez-vous remarqué, qu'est-ce que les disciples ont dit? Les disciples, hein. Je ne parle pas moi des pharisiens, ça y est, ils ont eu leur compte, eux. Au commencement, c'était comme ça. Mais les disciples qui marchent avec Jésus, qui connaissent Jésus, qui vivent avec Jésus, qui prient avec Jésus, disent, Seigneur, si c'est ça la condition de l'homme, ce n'est pas la peine de se marier. Les disciples. Ça veut dire, on peut être chrétien en disant, oh, le mariage, c'est vraiment la corvée. Hein. On peut être marié en disant, ah, oh, je suis déçu du mariage. On peut être chrétien en disant, ah, oh, je suis tombé sur le mauvais numéro. Ah, oh, j'aurais dû, voilà. Et, ça, c'est vraiment une action diabolique, c'est vraiment du mensonge. Nous sommes des disciples de Jésus et nous disons, au commencement, c'était qu'il ne fasse qu'un de cœur, d'âme, d'esprit, de corps. Eh bien, moi, je veux travailler pour faire qu'un. Malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, et ça, je trouve ça extraordinaire. Et là, on voit ce côté du cœur dur. Vous savez, dans tout conflit, on a un petit peu d'expérience, dans tout conflit, on ne peut pas dire que c'est 100% noir et 100% blanc. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, vous allez dire, oui, mais moi, c'est que 5%. Je vous l'accorde parce que moi, je suis passé par là. Je vous l'accorde 5%. Alors, j'ai 5% de tort. Je suis disciple de Jésus, donc pour mes 5% de tort, je vais demander pardon sincèrement. Mais pour mes 5%. Et alors, on se met devant le Seigneur, et puis on demande pardon au Seigneur, et on va aller voir son conjoint. Mais avant d'aller voir son conjoint, le Seigneur lui dit, c'est pas 5%, c'est 60%. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez ma logique? C'est que nous, on voit la part de notre responsabilité, on dit oui, j'ai eu tort. Mais quand on se met devant le Seigneur, on dit si tu savais comment tu es à côté de la plaque, tu pourrais tellement être animé de ma présence pour que les choses changent. Et dans cet esprit-là, on a peut-être 100% de tort parce qu'on n'a pas été baigné dans la présence de Dieu. Vous me suivez bien? Et là, j'ai fait une parenthèse. Moi, je suis vivement touché parce que, vous savez, quand on fait nos sessions couple, moi, je suis très dur avec les hommes. Parce que les hommes, ils sont vraiment machos. Ça fait plaisir, hein? Ils sont forts, ils sont musclés, ils savent tout, c'est les hommes, ils ont l'autorité. La femme, de toute façon, c'est qu'une côtelette, elle est sortie du corps, du côté. Et alors, ça leur plaît. Puis alors, Éphésiens 5, femmes, soyez soumises, là, c'est la cerise. C'est la cerise. Alors, voilà. Et puis, la vie est ainsi. Et quand on voit l'ancienne alliance, cherchez-moi un couple épanoui dans l'ancienne alliance. C'est le concubinage, c'est 700 femmes et 300 concubines pour Salomon, l'homme le plus sage. Expliquez-moi, une sagesse qui devient une folie. Le péché, c'est terrible, vous savez. La dureté du cœur, c'est terrible. L'indifférence, c'est terrible. Et c'est vrai, moi je pense à beaucoup de vous qui avez été comme broyés, parce que vous avez été comme dépersonnalisés, c'était toujours comme monsieur voulait, puis pour la paix, on s'écrase. Moi, j'ai une grande honte. Je vous donne un témoignage, je suis dans une église, on fait la session culte, et là, dans cette assemblée, il y a un ancien, et le pasteur est tout fier de me présenter son ancien, celui qui le remplace, celui qui l'aide beaucoup dans les visites et tout ça. Et moi, j'ai trouvé ça très bien qu'un ancien, qui était un peu comme moi maintenant, mais moi j'étais plus jeune à l'époque, et puis qui était là, cheveux blancs, ici, j'étais content. Il n'y avait pas sa femme. Alors, je n'ai pas du tout réfléchi d'ailleurs pourquoi sa femme n'était pas là. Et le lendemain matin, sa femme court me voir, mais alors elle était toute folle. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Elle dit, je suis la femme de l'ancien. Ah, elle dit, oui, oui. Elle dit, qu'est-ce que vous avez fait à mon mari? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, j'ai fait ma session avec Suzette, on a fait notre session, j'ai rien fait à votre mari. Mais mon mari, mais rendez-vous compte, il est arrivé à la maison, il s'est mis à genoux. Il a pleuré. Il m'a demandé pardon. En me disant, je t'ai broyé, je t'ai dépersonnalisé. Il dit, je n'ai jamais pu être moi-même. Je ne pouvais pas dire vraiment le fond de mon cœur. C'était toujours lui, il n'y avait que pour lui, et c'était femme, soyez soumise, etc. Et pour la paix, j'ai toujours fait carpette. Et mon mari est là, à genoux, il pleure, il demande pardon, je t'ai dépersonnalisé. Moi, je crois à la puissance de Dieu. Et moi, je voudrais, tout simplement, moi, vous demander pardon du coup, de l'homme qui n'est pas régénéré. Parce que c'est terrible. D'empêcher l'épanouissement de sa compagne. Et bien, nous sommes dans le troisième passage maintenant, nous basculons au troisième passage où il est dit l'homme quittera son père, sa mère et sa femme. Quelqu'un pourrait me dire où ça se trouve? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme? Oui, j'ai encore bafouillé? C'est bien. Non, je teste la capacité que vous avez de me pardonner. C'est dans quel passage? Vous savez dans quel passage? C'est dans les Épîtres aux Éphésiens. C'est justement dans le paragraphe où il est dit homme, soyez soumis. Femme, soyez soumise. Et homme. Ah ben vous me troublez, hein, je suis qu'un seul homme. Où sont les hommes? Il y en a un ici, il y a un homme là. Dans ce passage, si vous regardez bien, donc Paul dit voilà, l'homme quittera son père, sa mère. Hein, et il ajoute ce mystère est grand. Vous savez, de faire qu'un, c'est le mystère de Dieu. Et vous ne pouvez pas comprendre le mystère, à moins que l'Esprit de Dieu vous vienne en aide. Parce que les choses sont cachées, mais révélées à ceux qui l'aiment. Des choses qui ne viennent pas naturellement, et vous voulez arranger les bidons dans votre coupe à votre manière, avec votre forme de spiritualité, avec je ne sais pas trop quoi, mais si vous n'avez pas la révélation du mystère de faire qu'un, pas seulement une seule chair dans la sexualité, mais c'est faire qu'un corps, âme, esprit. là, c'est vraiment quelque chose que seul le Saint-Esprit peut vous révéler. Et quand on regarde bien, là, il est dit, ce mystère est grand. Je dis ça par rapport à Christ et à l'Église. Mais il est quand même grand par rapport au couple, à nos couples. C'est pas vrai? Et par rapport à Christ et à l'Église, moi, je trouve quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Paul dira très vite aux Éphésiens, il dira, l'Église, c'est un mariage entre des païens et le Seigneur, et ils ne font qu'un. Vous savez ce que c'est qu'un païen? Tout le monde sait, hein? Et en fin de compte, Jésus a jeté son regard sur les pires personnes. Moi, ça me touche, hein? Et il dit, voilà, je veux faire alliance avec eux, je voudrais tellement les prendre et les accompagner. Et on sait que c'est ils se fiancent, il y a une épouse qui s'est préparée, dit la Bible, hein? Et puis bientôt, il y aura les noces de l'agneau. Ça sera beau là-haut, hein? Amen. Gloire à Dieu. Mais je crois que c'est de cela qu'il faut s'inspirer pour percer le mystère. Si Jésus aime les païens, est-ce que nous, on ne peut pas supporter les défauts de notre conjoint? Voir une tare, un pli, un héritage peut-être de péché de parents, arrière-parents, parce qu'il y a des choses comme ça. Le caractère et tout ça. Nous, on a eu une fille trempée, un caractère incroyable. On s'est dit, d'où elle sort celle-là? D'où elle sort celle-là? On a eu beaucoup de mal avec elle. Alors on s'est dit, c'est peut-être le croisement. Mais plus tard, on a vu que ça venait de la belle-mère. Authentique, hein? Authentique, ma femme le confirme. Authentique. Mais voilà, et pendant ce temps-là, on a un caractère trempé. Trempé. À 18 ans, vous allez voir. On l'a entendu à 14, 15, 16 ans, on l'a entendu, hein, et puis ça chauffait, c'était dur. Hein. Et puis le Seigneur nous a fait grâce. Mais je peux vous dire, le caractère qu'elle a, combien ce caractère nous a bénis, même dans ces crises, parce qu'elle savait dire les choses, vous savez. Mais en plus, elle en avait un petit peu là-haut. Elle savait dire les choses, elle voyait clair. Elle nous a ouvert les yeux sur plein de choses. Elle était difficile à vivre, mais elle avait quelque chose d'extraordinaire dans son tempérament. Alors Dieu soit béni, le jour qu'elle a été brisée. Hein. Elle a dit, je ne marierai jamais un Anglais, jamais un pasteur. Aujourd'hui, c'est un Anglais qui est pasteur. Et elle a toujours ce tempérament, cette volonté. Elle dit, moi, je m'ennuie dans l'église quand il n'y a pas de nouveau. Femme de pasteur, je m'ennuie. Alors elle va chercher des âmes dans les rues, elle va chercher des âmes partout. Vous savez, s'il y a du tempérament chez votre mari, Dieu veut le sanctifier. Et s'il y a des défauts dans votre mari, Dieu peut vraiment faire quelque chose, moi je le crois. Et ça, c'est le cœur de Christ. Voyez, ce mystère est grand. Christ est des païens parfaitement un, nous y croyons tous. Amen. Alors il faut croire aussi à notre couple. Différent, ok, mais accepter cette différence au travers de l'action du Seigneur. Et donc là, on voit dans cette différence quelque chose de biblique et d'extraordinaire, c'est que l'Écriture dit, femme, soyez soumise, c'est vrai, mais l'Écriture dit, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et ça, vous l'aimez ce verset. Hein. Ah là, vous l'aimez. Ah là, vous l'aimez. Alors, je ne peux pas parler aux hommes, ils sont là. Mais je pourrais parler aux épouses que vous êtes. Il y a quand même un problème quand le mari n'est pas rempli du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Il y a un problème quand le mari, c'est un mari chrétien mais charnel, qui ne saisit pas les richesses et profondeurs qui peut-être sont en vous. Vous me suivez? C'est un problème quand même quand on sait que, en tant que chrétien, on devrait un couple qui s'épanouisse et qui avance et qui entre dans sa destinée. Et puis que c'est on tourne en rond. C'est un sacré problème. Alors qu'est-ce que je dois vous dire en chute finale? Mais j'ai quelque chose à vous dire. C'est que celui qui est sanctifié, sanctifie. Amen. Même l'inconverti. Amen. Et là, j'ai béni Dieu pour le message de ce matin. Parce que vous avez un rôle à jouer extraordinaire. En acceptant votre conjoint comme il est, et en recevant l'onction, le Saint-Esprit, en recevant On revient aux deux textes de notre introduction et je vais conclure en recevant justement ce bain d'amour. Nous, on a un problème en couple, là. Suzette, elle m'a donné tellement d'amour que moi, je me suis dit, oh, je suis en retard. Vous me suivez? Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi plus d'intérêt et d'amour pour elle. Et le Seigneur m'a donné plus d'amour. Et elle a dit, oh, qu'est-ce qu'il est gentil. Alors, elle me donne encore plus d'amour. Est-ce que vous me suivez? Elle me fait du bien, donc je me sens en retard, donc je lui fais du bien. Et puis là, ça lui fait tellement de bien qu'elle m'en refait du bien. C'est exactement ce qui se passe lorsque c'est le mauvais. Une parole dure, un geste fâcheux, une mauvaise réflexion, un regard, une maladresse, hop, ça entraîne du dérèglement. Est-ce que vous me suivez? Ah, puissiez-vous recevoir cet esprit qui déverse dans les cœurs l'amour, qui est le lien, qui va vous lier. Amen. Et même si l'autre est un petit peu réticent, mais il y a un lien qui se passe. Il ne va pas être d'accord, mais ça fait tellement de bien qu'un jour, il va plier par l'action du Saint-Esprit. Amen. Et puis l'autre, c'est la paix. Mes sœurs que vous êtes, ne vous énervez pas. Ma femme dit souvent, nous les femmes, on est comme des cocottes minutes. On dit rien, puis d'un seul coup, brum. La paix de Dieu. Et ça, vous ne le trouvez pas au supermarché. Hein. C'est répondre à un appel. Vous avez été appelé. C'est la justification. Vous qui avez été justifié, vous qui avez fait vraiment votre part vis-à-vis de Dieu, vous vous êtes vraiment mis devant le Seigneur, vous vous êtes vraiment mis en accord avec le Seigneur, vous avez reçu par le sang précieux la purification. Qu'est-ce que vous êtes heureuse. Amen. Avec un mari épouvantable, mais vous êtes heureuse. Ça, c'est la paix de Dieu. Oui ou non? Ça, c'est la paix de Dieu. Et c'est là le terrain pour l'union, à la paix de Dieu à laquelle vous avez été appelés pour former qu'un seul. Amen. Alors moi, je prie que Dieu bénisse chacune de vos maisons, faire qu'un en couple avec vos enfants, l'Église, faire qu'une. Vous voyez toutes les tensions dans les Églises? Peut-être pas dans les vôtres, tant mieux. Mais ça, c'est le péché, c'est la dureté. Mais Dieu a dit, non, 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 on est fait pour être un, que Dieu vous bénisse.
Oui. Je prends le relais parce que je vais vous donner maintenant peut-être quelques petites solutions pour favoriser peut-être cet homme que vous ne comprenez pas, peut-être mieux le comprendre. Et on a 10 points qu'on développe souvent en réunion de couple sur les mots qui viennent atteindre les couples, les obstacles à la bénédiction du couple. Moi, je vais vous développer la première seulement, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps. Et je crois que c'est quelque chose de très important, parce que ce qui vient en priorité, c'est le manque de communication. Et je crois que c'est très important, la communication, même dans le monde, avec son patron, avec n'importe qui. Mais dans le couple, c'est une chose qui est très, très importante, de savoir d'apprendre à bien communiquer. Alors on va voir, je vais vous expliquer la racine du mot communication, on va voir comment on peut communiquer et je vais vous démontrer aussi que même sans parole, la Bible dit que même sans parole, on peut gagner les gens. Et là je voudrais faire un petit clin d'œil à nos personnes qui sont malentendantes, qui ne parlent pas, c'est que même elles, si elles ne parlent pas, eh bien elles peuvent aussi communiquer. Parce que je veux vous démontrer qu'on peut communiquer avec nos cinq sens. Et on n'a pas besoin de paroles, et des fois, il vaut même mieux qu'on se taise, parce que quelquefois, on gagne à ne pas trop dire des moulins à paroles ou des répétitions ou des choses mal à propos. Eh bien, on est quelquefois mieux de dire moins de choses, mais d'en faire plus. Voilà, donc la communication, c'est la racine du mot communion. C'est transmettre, c'est faire passer dedans ou à une personne. C'est une liaison. Dans une communication qui est une communion, il y a toujours un impact. L'impact de Jésus, par exemple, dans notre vie, tout lui a été révélé par le Père et il nous transmet tout ce qui vient du Père. On devient ses imitateurs. On a envie de lui ressembler. Il nous a transmis quelque chose. Il y a aussi l'amour des Écritures. On peut le dire dans Deutéronome, cette scène, il est dit de transmettre de génération en génération cette parole à nos enfants, à notre mari, à tous ceux qui nous entourent. Mais c'est la passion avec laquelle on parle, notre vécu, notre façon d'être, qui va faire passer vraiment des choses dans l'autre, qui va le marquer. Et pour vos maris, c'est ce qu'il faut, mes sœurs, c'est d'arriver à lui transmettre ce que vous avez dans votre intérieur. Souvent, on entend parler, « Ah ben tiens, elle est tombée dans la marmite » ou bien « il a pris le virus ». Vous avez déjà entendu cette question-là. « Il m'a filé son virus ». On entend souvent cette expression pour un métier ou quelqu'un qui est passionné de quelque chose, soit de cuisine ou de vélo ou de sport. Et on a transmis, on est tellement des passionnés et on en parle tellement avec un cœur comme les prédicateurs. Quand certains prêchent, ils le prêchent tellement avec une conviction et leur cœur qu'ils transmettent la foi, ils transmettent quelque chose. Et ça, on est des passionnés et on passe ça. Moi, je me souviens quand j'étais petite, j'allais au lycée et puis j'avais une de mes professeurs d'histoire géo. J'avais horreur de l'histoire et de la géographie. Mais j'avais une professeure qui était tellement gentille en plus et qu'elle venait son cours avec une telle passion. Elle nous expliquait tellement bien les choses et bien qu'elle m'a donné envie de travailler. Et j'aimais pas cette matière, mais je la travaillais bien et je travaillais presque par amour pour elle. Et c'est ce qui se produit dans la communication. On transmet. Il y a plusieurs façons, donc, je le disais, de communiquer. C'est vrai que la principale, c'est la parole, c'est le dialogue. Dans les couples, on dialogue beaucoup. Vous allez me dire, c'est pas vrai. Mais oui, on sait parler, mais pas de choses intéressantes. On sait dire, passe-moi le sel, t'iras chercher les enfants à l'école. Là, c'est ton tour de faire la vaisselle. On va communiquer, dire, tiens, le voisin, il a acheté une nouvelle voiture. Ou ma voisine ceci, on va parler de choses et d'autres, de l'Église, des chrétiens, mais on ne va pas souvent dans l'essentiel. Je vais vous démontrer que pour moi, la communion, l'intimité, c'est comme si moi, la communion, quand je lis la parole de Dieu, quand je prie le Seigneur, eh bien, je sais ce qu'il attend de moi, j'obéis, donc ça pour moi, c'est le dialogue, je dialogue avec Dieu. Mais quand j'ouvre ma Bible, je ne vois pas marqué « Suzette, là tu vas déménager à tel endroit, et puis après, ou pour les jeunes filles, tu vas te marier avec telle personne », je ne le vois pas ça. Quand je veux vraiment savoir mon service, ce que Dieu attend de moi, il faut que je prenne du temps et que je rentre en communion avec lui. Alors c'est vrai, par sa parole, par ce qu'il nous dit, mais être vraiment là dans la prière, dans le secret, et avoir un dialogue avec lui. Et je crois que justement, dans la communication avec vos époux, on ne se comprend pas parce qu'on ne sait pas dialoguer, on ne dialogue pas de la même manière, il y a des manières de parler, il y a des manières de connaître, et je trouve que le culte de famille, c'est quelque chose qui est perdu. Je suis triste de voir des familles chrétiennes qui ne savent plus ouvrir la Bible ensemble, de prier ensemble, parce que c'est là qu'on trouve la solution en fait. C'est un moyen de communier, de connaître ce qu'il y a sur le cœur de l'autre. Alors, je trouve que c'est quand même très, très important de je crois que vous avez compris ce qu'est que la communication, de faire passer à l'autre. Alors, évidemment, il y a certaines manières de parler. Il y a d'abord une manière de tout se dire. Il faut apprendre à ne rien cacher. J'étais au Carrefour tout à l'heure, ça m'a fait beaucoup de bien. Et la sœur qui parlait des abus, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler non plus, mais il y a des abus aussi en couple. Mais ce que je voulais dire, eh bien, c'est que parfois, on a un passé. On a eu notre vie avant d'être mariés. Notre époux a eu sa vie aussi. Et parfois, on a des réactions, parce qu'on a été façonnés, programmés, hein, souvent comme sa mère. Moi, j'ai dit au moins dans ma vie, si ma mère me voyait, elle me hantait partout, tellement qu'elle était très stricte. Ça, c'est ma façon d'être éduquée. Elle m'a imprégnée. Donc, on a des choses qui ont été imprégnées. Et moi, j'ai été marquée une fois dans un séminaire par le témoignage d'une sœur qui ne savait pas se donner à son mari parce qu'elle avait été abusée, justement, sexuellement. Il faisait chambre à part. Et moi, ça m'avait beaucoup marquée parce qu'elle n'avait jamais osé le dire à son mari. quand on a un passé lourd, quand il y a des choses qui se sont passées, il faut savoir en parler, savoir se confier, savoir dire ce qu'il y a sur notre cœur. Moi, je sais qu'avec mon éducation, au début du mariage, moi, j'avais un père, j'ai été éduquée, il disait « quand je dis rien, c'est un compliment ». Ce qui voulait dire que quand il ouvrait la bouche, c'était pour les reproches. J'étais éduquée comme ça. Et au début du mariage, eh bien, il est évident que mon mari, lui, m'ouvrait son cœur. Lui, il était plutôt baba cool, moi, j'étais plutôt... Et du coup, eh bien, il y avait des choses qu'il me disait. Je disais « oh, j'ai pas été à la hauteur, je me sentais coupable, je paniquais parce que je lui avais jamais dit comment j'avais été éduquée, comment j'avais été élevée. » Et là, j'ai vu l'importance parce que j'avais des réactions. S'il avait connu mes réactions, il s'y serait pris autrement ou il me l'aurait dit autrement. Et c'est ce que nous, on doit faire aussi pour nos époux. Si on connaît le passé de notre époux, si on sait ce qui s'est passé dans son enfance, eh bien, on sait comment le prendre. On sait comment sa maman l'a chouchouté, comment elle lui a fait à manger. Alors évidemment, on ne fait pas comme sa mère. Mais... mais c'est évident que c'est en dialoguant qu'il peut vous expliquer comment sa mère faisait. On ne peut pas le deviner. Hein ? Donc il faut en parler. Tout se dire et dire la vérité, même si ça fait mal. Il y a le ton de la voix aussi qui est très important quand on communique. Parce que vous pouvez dire une phrase, eh bien vous pouvez la dire de deux tonalités différentes et ça veut dire deux choses différentes. Vous pouvez très bien dire à votre mari, quand il rentre, mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est à ce temps-là que tu rentres ? C'est pas très le son de la voix. Et après, vous pouvez très bien lui dire, c'est à ce temps-là que tu rentres, en posant comme une question, sous-entendu, tiens, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Vous vous souciez de lui. Il y a une manière de parler, pas en accusateur, pas dire toutes ces phrases toutes prêtes, c'est jamais, c'est toujours pareil, tu fais jamais ça, tu y as ceci, il y a toutes ces frustrations, les habitudes. Et là, dans la communication, il faut s'habituer à éviter les phrases toutes faites en accusateur. Si vous dites « je suis pas d'accord », si vous dites « je suis pas d'accord », vous coupez la communication. Parce qu'on ne peut plus parler, puisqu'il n'est pas d'accord, on sait d'avance ce qu'il va nous dire, ces phrases toutes prêtes, « oh chérie, il y a le Seigneur, hein, il va te relever », et puis « oh non, ça n'a pas d'importance », et puis on se retrouve toujours dans la même situation. Donc ça, c'est très important aussi, de ne pas donner les phrases toutes faites. Alors je voulais venir aux encouragements, aux compliments, comme on l'a dit, je ne vais pas m'éterniser très longtemps, vous avez compris que si vous voulez encourager votre mari, quand il vous a monté l'aspirateur, dites-lui merci, encouragez-le dans ce qu'il fait, s'intéresser à ce qu'il fait, communiquer avec lui, c'est très important. Les silences aussi, je voudrais en parler, parce que parfois on fait la politique de l'autruche, et les silences, eh bien, on dit ça parle parfois. Mais quand on ne dit pas, quand on ne parle pas, on a l'impression que l'autre se désintéresse de ce que l'on veut. Et ça fait très, très, très mal. Je voulais vous dire aussi que... Non, ça, je vais le passer parce que ça va être trop long. Je suis obligée de supprimer certaines petites choses. Je voulais vous dire aussi qu'avec le regard, vous pouvez parler. Vous savez, quand vous regardez avec tendresse, quand votre mari vous a fait la cour dans les premiers temps, vous le découvrez comment ? À son regard. Il vous regarde d'une certaine manière. Et là, vous voyez dans le regard. Et moi, là, j'aime beaucoup parler du regard de Jésus quand Pierre a renié. Le regard sur Jésus, de Jésus sur Pierre, c'est extraordinaire. Cette tendresse sans reproche. Simplement un regard, il a compris. Parfois, on se regarde, on se comprend. C'est formidable, surtout quand c'est accompagné d'un sourire. Vous allez me dire, je vais vous parler un petit peu de l'odorat. Vous savez, souvent, on se pomponne avant le mariage. Là, je ne vais pas vous donner ce que je dis aux hommes, mais là, je vais vous dire que pour les femmes. Mais on se pomponne avant le mariage. J'ai connu beaucoup de femmes qui étaient très coquettes avant le mariage. Et après le mariage, il y a eu du laisser-aller. Vous savez, si j'en parle, c'est parce que c'est une des raisons aussi des divorces, des cas de divorce. Voilà, il nous est dit d'être la bonne odeur de Christ. Bon, je pense qu'on ne sent pas mauvais. Mais vous savez, beaucoup de gens ne se lavent plus ou ne se lavent pas les dents. Mais ça, c'est important aussi d'être coquette. Vous savez, j'ai connu des femmes qui s'étaient laissées aller et il y a des maris qui ont été voir ailleurs. Il y a beaucoup de choses aussi à veiller dans ce domaine-là. Et ça fait partie de la communication. Vous communiquez quoi à votre mari quand on n'est pas dans un bon état ? On lui communique qu'on a peut-être plus envie de lui. Comment interprète-t-il ça? Il faut se poser des questions. Il y a le goût aussi. Le goût, eh bien, le goût, c'est vraiment quelque chose d'important aussi. Faites pas que des pâtes à votre mari. Même si vous savez pas cuisiner, essayez de temps en temps de lui mijoter quelque chose pour faire un petit tête-à-tête. Vous savez, quand il y a la routine qui s'installe, quand on veut communiquer, se parler, dans la Bible, il y a plein de textes qui parlent autour de la table. Et autour de la table de la Sainte Cène, qui est la communion. Je rappelle, on est en communion, un même esprit. Si vous voulez communier avec votre mari, il faut impérativement, pour comprendre l'homme qui est devant vous, eh bien, il faut apprendre à communiquer et à se trouver un temps pour le faire. Le mangeur de temps, c'est quelque chose de terrible. Et vous savez, nous en France, on aime manger. Quand on veut parler à quelqu'un, on lui dit « Allez, tu viens à manger à la maison, autour de la table, on va parler, on va communiquer, on va communier ensemble. » Et la table, pour moi, ça représente vraiment quelque chose, et ça, c'est quelque chose qui est perdu dans les familles. Chacun fait sa petite sauce, on met l'assiette au lave-vaisselle, et puis chacun fait sa petite sauce, et puis il n'y a plus de communion autour de la table. On a perdu cela dans les familles, et c'est dommage. Et si vous voulez instituer une communion chez vous, remettez la table à sa place. Vous avez Louis. Louis, c'est quelque chose de très important, parce que pour moi, si on n'a pas une écoute, on n'a pas de bonne communication et une bonne relation. Vous savez, je disais tout à l'heure, les phrases toutes faites, les hommes sont un peu comme ça, comme ils sont séquentiels et qui vont droit au but. Il faut déjà avoir donné la réponse avant même de donner les détails. Et nous, on donne les détails. Alors, il faut comprendre ça dans la relation, apprendre à se dire les choses. Je vais passer un petit peu à Louis, parce que après, j'explique beaucoup de choses autrefois, mais là, je vais passer un petit peu, parce que je vais passer un petit peu plus de temps sur le toucher, le contact, le gestuel. C'est très important, on le voit aujourd'hui, le gestuel est très important pour nos sœurs. Et je bénis Dieu pour nos sœurs qui ont ce gestuel. Et vraiment, je vais passer beaucoup de temps pour les caresses, pour l'affectif, pour les étreintes. Ne vous privez pas, même si vous avez un mari qui paraît un peu dur, les hommes ont un petit côté tendre et ils attendent souvent de leur femme. Nous, on attend qu'ils fassent le premier pas, mais les hommes attendent de leur femme qu'elles aient peut-être un peu plus de tendresse à leur égard, de compréhension et de les serrer dans les bras. Moi, quand mon mari me serre dans ses bras, c'est le plafond pourrait tomber sur la tête, ça me fait du bien. Tous mes problèmes sont résolus. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous êtes en détresse, quand vous n'êtes pas bien, et que quelqu'un vous serre dans les bras, vous avez une petite glande là derrière la tête qui sécrète un liquide qui apaise. Vous avez déjà fait cette expérience-là ? Il suffit que quelqu'un vienne et vous prenne dans ses bras, ou vous caresse, ou une petite tape, ou quelque chose, le contact. Vous savez, on dit l'imposition des mains. Jésus a pris les enfants dans ses bras. Quand on impose les mains, on communique quelque chose à la personne. On lui communique la foi pour être guéri. On lui communique notre amour. Et au travers de cet amour-là, la personne est bénie. Et nous, le contact, c'est quelque chose de très important. En Russie, il y a quelques années, ils avaient dit que les enfants, il ne fallait pas qu'ils subissent l'éducation, les influences d'autrui. Et ils ont dit, on va prendre des nurses et on va prendre des 12 bébés et il ne faudra pas leur sourire, il ne faudra pas les regarder, il ne faudra pas les caresser. Enfin, aucun contact de communication avec le toucher. Chose qu'ils ont faite, biberon, changer, mettre au lit, on ne les regardait pas, on ne caressait pas, on ne leur parlait pas. Quand vous faites toutes ces choses-là, vous communiquez la vie. Il s'est avéré que un par un, les bébés sont morts. Tous sont morts. Pourquoi ? Parce que les enfants, mais même vos maris, ont besoin qu'on communique, ont besoin de votre regard, de votre tendresse. Toutes ces choses, tous nos instincts, tous nos sens ont été créés pour donner la vie. Et il faut savoir s'en servir. Il faut apprendre à communiquer avec cela. J'ai fait une expérience une fois avec une de mes filles. Elle est arrivée du boulot, elle était désemparée, elle avait une journée exécrable. Et elle est arrivée à la maison, moi je prends facilement mes enfants dans les bras, mais là, ce jour-là, ma fille me dit « Maman, prends-moi dans tes bras, mais comme quand j'étais petite. » Alors je l'ai regardée, parce que ça faisait 25 ans que je faisais ça. Elle a été malade à 5 ans, elle avait 30 ans quand elle a fait ça. Et je l'ai regardée, c'est pour vous montrer l'impact que ça peut avoir, vous transmettez quelque chose. Cette fille, elle avait des trous aux poumons, elle était malade, on a manqué de la perdre deux fois. Je dormais que 2 heures la nuit à son chevet. Et c'était terrible, elle faisait des crises de cystite. Et toutes les nuits, j'étais à son chevet pendant tout le temps. Je dormais que 2 heures et je la serrais dans mes bras. Et là, elle m'entendait prier. J'avais sa joue contre sa joue. Et elle entendait Jésus, toutes mes louanges et ma prière, et je l'avais contre moi. Et elle me dit, maman, quand j'étais comme ça, contre toi, tu me serrais de cette manière-là. Eh bien, je sentais tout l'amour de Dieu qui me pénétrait. Et je sentais ton cœur battre dans ma poitrine. Et aujourd'hui, quand ça ne va pas, si je ferme les yeux, je repense à ces instants pendant 2 ans. Tu as été à mon chevet et j'entends ton cœur battre dans le mien et je sens tes bras qui me serrent et ça me fait un bien fou parce que j'entendais Jésus, viens à mon secours. Et tout cela, ça l'a béni et aujourd'hui, elle me l'a servi sur un plateau et quelque chose qui me marque. J'ai vécu des choses avec mon fils aussi qui a refait la même chose à sa femme, des choses que je lui avais faites, mais il avait 3 ans. Je me suis dit, avec le toucher, vous avez un impact avec le regard, avec votre tendresse. Je vais arrêter là. Vous pouvez manifester avec le toucher, avec les mains. On pense aussi à la sexualité, ça on n'en parlera pas. Les services qu'on peut se rendre mutuellement, les cadeaux, les petits cadeaux qui font plaisir. Ce sont des petits gestes qui entretiennent l'amour et la communication. Alors évidemment, moi je suis quelqu'un qui aime aussi faire des moments de qualité. Et puis, j'aime qu'on... Ben je ne sais plus ce que je voulais dire. Du coup, il me trouble, hein, voyez-vous, comment il est. Hein. Je suis une romantique. Moi, je suis quelqu'un qui aime un petit tour au bord de l'eau, au clair de lune. Et ça, vous ne privez pas de cela. C'est vrai qu'on est débordé. Aujourd'hui, maintenant, vous travaillez, mesdames, parce qu'on est obligé parfois de travailler. Et puis, le mari, il a son programme. Mais si, au moins une fois par semaine, vous pouvez vous faire une petite soirée en amoureux pour communiquer, pour communier, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Alors, je voudrais terminer en disant que vous pouvez être le moyen. N'attendez pas que votre mari commence. J'ai un verset du Proverbe 31 qui dit « Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Même si votre mari, il est difficile, même s'il est dur, on gagne avec l'amour. On ne rend pas quelque chose de mauvais à quelqu'un qui nous fait de l'amour. Plus vous allez baigner d'amour, plus vous allez donner de l'amour, vous parlerez avec douceur. La douceur, ça amène beaucoup de choses. Ce que je voulais dire aussi, me l'a pris de la bouche tout à l'heure, c'est que les femmes ont une tendance, quand on veut faire un reproche au mari, au lieu de lui dire bien gentiment, on emmagasine, on est des cocottes minutes. Faites pas comme moi, parce que moi j'étais comme ça, et j'ai dû vraiment travailler sur moi. Parce que moi, j'étais papa, cette pétarade. Je ne savais pas dire les choses. J'ai appris, le Seigneur m'a bénie. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que nous, les femmes, on est des cocottes minutes. On emmagasine la vapeur, et d'un seul coup, le bouchon saute, et on lance toute notre vapeur. Même des choses qu'il a fait il y a 10 ans, on va lui reprocher maintenant. Et puis, on ne lui a jamais dit... Alors, t'as fait ça, t'es comme ça. Et nous, comme on n'a jamais dit, et lui, eh ben, il est loin de penser à ça. Il dit, je suis cet homme-là. Et on l'écrase complètement. Alors après, il a du mal après à retrouver des sentiments. On coupe la communication, on coupe les sentiments. Mes sœurs, vous avez tout en tant que femme, aussi bien en beauté, en séduction, en façon de parler, dans votre sensibilité, vous avez tous les atouts pour gagner votre mari. Et je veux vraiment croire que vous pourrez repartir d'ici avec des résolutions dans votre cœur. Voilà, je ne vais pas prendre trop de temps, je vais terminer là, parce qu'on voudrait que ce soit interactif et on voudrait prendre un quart d'heure pour parler. Voilà. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse. Je crois que mon mari veut vous rendre un témoignage.
Voilà, quelque chose que je n'ai pas préparé, puis là, en écoutant Suzette, là, ça m'est venu fortement à l'esprit. Et surtout, par rapport au manque de communication, ça peut faire des dégâts terribles. Et surtout, le diable, lui, il exploite. Est-ce que vous m'entendez ? Le diable exploite. Un jour, comme ça, notre fille donc, était très malade. Et elle pouvait avoir 3 ans, peut-être plus ou moins. Et je rentre à la maison. Et elle s'essuie un peu les yeux comme ça. Et là, je dis, toi, t'as pleuré, toi. Je dis, t'étais en train de pleurer ou tu as pleuré. Et je lui dis, tu pleures ? Ah non, ça va bien. Oui, ça va bien. Non, tu as pleuré. Non. Moi, je crois que tu as pleuré. Non, tout va bien. Je dis, dis-moi ce qui se passe parce que tu as pleuré. Non, ça va, t'inquiète pas. Et puis, y aller, hein. Puis moi, j'ai dit, non, tu me le dis. Alors, vous voyez la communication ? De quel côté elle venait ? C'est de chez elle ou de chez moi ? Hein ? Là, j'étais bon ce coup-là. C'était très rare. Mais là, j'étais bon. Et puis, j'insiste. Et elle murmure. Mais alors là, j'étais pas sourd à l'époque. Elle ne passera pas 5 ans. Vous m'entendez ? Le diable l'avait nourrie de l'idée que Élise ne passera pas 5 ans. Et là, j'ai vu tout de suite comment le diable... Et là, ce non-dit aurait pu être terrible. Hein. Mais le fait que je l'ai entendu, tout de suite, j'ai repris. J'ai dit non, elle vivra plus de 5 ans. Et puis là, j'ai proclamé qu'elle vivra plus de 5 ans. Aussitôt, on s'est mis en prière. Aussitôt, on a vraiment ouvert notre cœur au Seigneur. Dites-moi, à quel âge elle a été guérie ? 5 ans. Vous rendez-vous compte ? Comme quoi, quand on rumine, quand on est là avec ses soucis, il faut partager avec son compagnon. Il faut le dire, il y a peut-être la manière de le dire, mais il faut le faire. Parce qu'après, on est ligoté. Et l'adversaire nous tient. Voilà, alors pour le partage, bon. Est-ce qu'on vous a choqué ? Ça va ? Je me suis bien comporté, non ? Je ne me fais pas trop... Moi, depuis le début, j'entends dire, c'est réservé aux femmes, les hommes n'ont pas le droit. Puis après, on me dit, il faut que tu viennes, il faut que tu parles. Alors, j'étais mal, hein. J'étais mal, mais comme beaucoup ont prié pour cette session, donc je n'ai pas été lapidé.
Oui. On voulait vous laisser quand même un temps de parole. Je pense qu'on a débordé un petit peu, donc on a encore 5 minutes. Non, on n'a pas débordé, mais il faut arrêter à 18 heures. Mais on veut quand même permettre à certaines personnes, s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris ou quelque chose qui les a choqués, ou voilà, de pouvoir parler, de pouvoir faire... On est nombreux, je sais que c'est difficile, mais peut-être à ce moment-là qu'on pourrait avoir un temps de prière, et puis peut-être vous pouvez nous voir après, je ne sais pas. Peut-être que vous pouvez vous lever, et on va prier le Seigneur, si vous voulez, ensemble, pour demander à Jésus qu'on puisse comprendre cet homme qu'il a mis à nos côtés, qu'on puisse partager. Vous savez, le diable, il va vous souffler. Oh, mais non, tu n'y arriveras pas. Oh non, tu vas faire le premier pas. Vous savez, j'avais un témoignage à vous rendre d'une femme qui voulait pas du tout faire ce que son pasteur lui avait demandé. Et puis, puis je vais vous le rendre quand même, ce témoignage, parce qu'il est trop bien. C'est une femme... Il n'y a plus que 5 minutes. Bon, c'est une femme qui, un jour, elle priait toutes les semaines à la réunion de prière, Seigneur, tu bénis mon mari, il n'était pas converti. Mais vous savez, parfois on peut avoir des attitudes contraires à notre prière. On dit que nos prières ne sont pas exaucées. Mais cette femme, le pasteur, en avait tellement marre un beau jour qu'il est allé la visiter. Puis il a dit, écoutez, ma petite sœur, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous priez toujours et Jésus ne vous exauce pas. Il y a quelque chose d'anormal. Et déjà, quand il est arrivé chez elle, elle était toute négligée, alors qu'elle est pomponnée quand elle vient à l'église. Alors elle lui dit, c'est comme ça que vous accueillez votre mari? Bon, oui. Et puis il dit, vous savez, de toute façon, ce soir, il va rentrer. Elle dit, ben, il va avoir des pattes, parce que comme il n'a pas été correct ce matin, donc il aura des pattes ce soir. Ouais, c'est les petites vengeances. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais... Donc cette femme, elle avait toutes des attitudes qui étaient contraires à sa prière. Donc elle ne voyait jamais les ossements. Alors le pasteur, pour faire vite, il y a d'autres détails que je ne vous dis pas, mais il est parti, il a dit, ma petite sœur, je ne prierai même pas avec vous, là. Vous allez faire ça, vous allez accueillir votre mari, l'embrasser quand il va arriver, vraiment lui demander si sa journée était bonne, vous allez vous faire belle déjà, premièrement, et parce qu'il n'a pas été correct ce matin, vous allez lui faire le meilleur plat qu'il aime. Oh, je pourrais pas, je pourrais pas, je pourrais pas. Et c'est ça que le diable va vous souffler aussi. J'y arriverai pas parce que faire le premier pas, c'est très difficile. Et cette femme a s'y attelé. Elle s'est fait belle. Elle s'est bien coiffée, bien habillée. Elle sentait bon. Et elle a accueilli son mari. Son mari la voit dans l'entrée. Il dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'il était... Et puis, elle l'a embrassé. Et puis, elle lui a demandé comment a été ta journée. Mais lui, il n'en revenait pas. Alors donc, il est allé, pendant qu'il se lavait, il sentait l'odeur aussi de la cuisine ici. Oh, mais elle m'a préparé quelque chose de bon, parce que lui s'attendait à manger des pâtes. Hein. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas été correct le matin. Hein. Alors il dit, ce soir, je vais avoir les pâtes. Et non, il n'a pas eu les pâtes. Et puis au bout d'un moment, en mangeant, tête à tête, en discutant, il lui dit, mais c'est pas ta réunion de prière ce soir? Oui, oui, mais je vais passer la soirée avec toi. Ah non, 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 non. Eh bien, on va y aller tous les deux. Le soir même, il est allé à la réunion et il a donné son cœur à Jésus le soir même. Et après, on a appris, quand il a revu cette femme, il a dit, mais c'est cette femme que j'aimais autrefois. C'est cette femme que j'ai connue. Et parfois, on change, nos attitudes changent. Et là, le diable, il va vous souffler, oh non, je ne peux pas l'embrasser, ça fait des années, je ne l'ai même pas accueilli. Ou je me couche le soir, je ne l'attends même pas. Ça va vous paraître une montagne, mais faites-le. Faites-le, parce que je peux vous dire que ça marche. J'aurai des tonnes de témoignages à vous rendre dans ce domaine-là, que quand on a mis en pratique l'amour, eh bien, ça marche. Parce qu'on a Jésus avec nous. Voilà. On va prier le Seigneur.
On pourrait peut-être tous louer le Seigneur pour nos maris. Enfin, moi, pour ma femme. Vous pouvez louer le Seigneur pour votre époux ? Allez, louez le Seigneur. Merci, Seigneur.